Et c'est l'heure du LEM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Aujourd'hui dans l'émission, je reçois Tiphaine Gaillard pour parler des spécificités sensorielles liées à l'autisme et au TDAH en milieu naturel.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère. Labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et bonjour et bienvenue dans la 10e saison du LEM, c'est votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous sommes en direct comme d'hab depuis nos studios au fou de midi jusqu'à 12h30, ça change un petit peu cette année. Et puis ce soir à 18h. Eh bien, c'est la rediffusion. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur Internet et sur le site de la radio à transistor.bzh ou bien réécouter tous nos contenus, c'est dispo sur le web et ça, c'est pour l'éternité. Les personnes en situation autistique et atteintes de troubles de l'attention présentent souvent des particularités sensorielles qui influencent leur quotidien. Nos environnements habituels, maisons, écoles, lieux publics peuvent à tout moment stimuler leur sensibilité et ainsi transformer des situations ordinaires en véritables épreuves. Mais qu'en est-il dans un environnement naturel ? Alors tout ça, on va en discuter avec Tiphaine Gaillard de Brin d'Éveil de Pont-de-Buis. Bonjour Tiphaine.
Bonjour David.
Comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Bon, ça va très très bien. Donc avant de rentrer dans toutes ces spécificités sensorielles qui sont liées donc à l'autisme et au TDAH en milieu naturel, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Brin d'Éveil et votre métier à l'intérieur de cette structure ?
Alors Brin d'Éveil, c'est une association d'abord, et c'est une association qui porte une forest school, donc la forest school Brin d'Éveil, qui est un lieu dans la nature qui accueille les enfants à besoins spécifiques et plus particulièrement avec des troubles du neurodéveloppement. Et une forest school, c'est un lieu où on accompagne le développement holistique des enfants. Et Brin d'Éveil est une forest school, la première de France en l'occurrence, spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique et éducatif, avec beaucoup beaucoup d'enfants, avec un TSA et un TDAH, comme tu viens de le mentionner. Et moi, dans ce contexte-là, je suis éducatrice spécialisée et ça fait 14 ans que je travaille auprès d'enfants TSA et TDAH. Petite spécificité, j'ai moi-même un TDAH, donc je suis particulièrement consciente des enjeux et des impacts de ces difficultés-là. Et j'ai une petite fille avec un trouble du neurodéveloppement également, donc je y touche un peu dans tous les domaines et je suis la créatrice de la Forest School Brin d'Éveil. Qui est aujourd'hui une association qui compte une dizaine de professionnels, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, psychologues, professionnels ou bénévoles, qui accompagnent les enfants soit en un pour un, en séance thérapeutique et éducative, soit en, j'avais plus le casque, soit, si, bon. Soit en tout petit groupe sur les compétences relationnelles.
D'accord, ça veut dire quoi, holistique ?
Holistique, c'est-à-dire que c'est pas un accompagnement spécialisé sur un seul domaine du développement de l'enfant, comme ça peut être le cas de l'ergothérapie ou de l'orthophonie. Nos objectifs d'accompagnement, c'est le développement de l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire le prendre là où il en est, en enfant magnifique et extraordinaire, autant T, et l'aider à se développer dans tout son potentiel, donc autant dans les savoir-être que dans les savoir-faire, que dans les connaissances académiques, les compétences relationnelles, etc. On ne se limite pas à une part de l'enfant, on le prend dans sa totalité.
Bon alors, pour parler un petit peu de ces spécificités sensorielles, vous m'avez dit un tout petit peu en off, juste avant l'émission, qu'il y avait des points de vue différents là-dessus. Alors nous, on va essayer de rester en France, sur ce qu'on voit chez nous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi un profil sensoriel il est différent d'un pays à l'autre ?
Alors déjà, pour petite idée, la question des troubles sensoriels, ça date des années 70. Ça s'est développé en parallèle en France et aux États-Unis. En France avec Bullinger et aux États-Unis avec RS. Et aux États-Unis, c'est une approche qui est très neurodéveloppementale, du coup beaucoup basée sur le développement du cerveau. Et en France, c'est une approche qui est beaucoup plus clinique, donc qui met en jeu, en plus de du développement du cerveau, tous les aspects psycho-affectifs, en lien avec le vécu sensoriel, en lien avec le vécu émotionnel. Du coup, c'est deux approches différentes qui se complètent l'une l'autre. En France, il y a aussi des praticiens qui sont plus sur de la neuro. Moi, personnellement, dans mon parcours, j'ai été formée par Olivier Gorgi, Gwenaëlle Rosco et Pascal Brochu, qui sont des gens qui sont beaucoup plus du secteur du neurodéveloppemental, justement, et qui ont une lecture plus proche de ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Et du coup, mes références, il est vrai, sont plus de cet ordre-là. Je ne suis pas formée à Bullinger, par exemple, même si j'ai travaillé avec des psychomotriciens formés à Bullinger et que j'ai été guidée là-dessus. Mais la partie clinique de l'accompagnement, ce n'est pas dans mes compétences d'éducatrice spécialisée. Voilà.
D'accord. Bon, est-ce qu'on peut décrire les particularités sensorielles les plus fréquentes qu'on peut trouver chez des enfants qui sont autistes ou atteints de TDAH ?
Alors déjà, il faut savoir que dans le cadre du TDAH, aujourd'hui, les particularités sensorielles ne sont pas reconnues comme étant directement liées au TDAH, même si aux États-Unis, ça vient de plus en plus. Le TSA, c'est en train de rentrer. L'autisme, on est en train de dire que oui, ça fait partie du diagnostic, les troubles sensoriels, mais ce n'est pas un critère d'évaluation de l'autisme, pour le coup, en France, les troubles sensoriels. Et non. Maintenant, c'est clair que ça fait partie de, souvent, quasiment totalement, toujours même, des particularités des personnes autistes et des personnes avec un TDAH. Mais la lecture qu'on en fait au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas automatique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça a un nom propre. Ça s'appelle les TIS, les troubles de l'intégration sensorielle. C'est un diagnostic supplémentaire, en fait, en plus du TSA et du TDAH.
D'accord.
Et en France, ce n'est pas encore un diagnostic qui est reconnu par le milieu médical, le trouble d'intégration sensorielle. Parce qu'en France, on aime bien revalider les études scientifiques sur notre territoire et que du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est pas dans le processus, c'est pas dans le protocole en fait. C'est quand même pris en compte très largement et reconnu très largement, on est d'accord. Mais dans le protocole d'évaluation et de diagnostic, en tout cas, ce n'est pas...
Officiel quoi.
Ce n'est pas un critère de diagnostic.
Voilà. C'est quoi les critères qu'on a nous en France ?
Alors sur l'autisme, c'est très simple, c'est le trouble dans la relation à l'autre, le trouble de la communication et les intérêts restreints. C'est les trois piliers du diagnostic de l'autisme qui maintenant rentrent d'ailleurs dans deux piliers vraiment, les intérêts restreints et les troubles de la relation.
Ça veut dire quoi intérêts restreints ?
Intérêt restreint, c'est que c'est des enfants qui vont, dans le cadre de l'autisme, avoir tendance à boucler sur des sujets, c'est-à-dire à avoir des intérêts très spécifiques et à ne pas forcément avoir de motivation à explorer d'autres sujets plus consensuels, tels que la relation humaine, par exemple.
Donc boucler, on entend tourner en rond,
voilà,
c'est-à-dire
qui vont être un petit peu obsédés par certains sujets et du coup s'autoréguler en passant sur la répétition de ces sujets-là, sans forcément pouvoir développer d'autres compétences.
Ouais, d'accord. Alors, c'est vraiment différent quand une personne est atteinte d'autisme ou de TDAH, quand il est en milieu naturel et en milieu, on va dire, extérieur, urbain.
Alors, c'est le cas de tous les êtres humains.
Ouais, mais c'est pas,
j'ai perçu, envie de dire.
C'est pas perçu pareil.
Non, mais en réalité, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'on parle vraiment de spectre. Mais globalement, on sait que pour tous les êtres humains, on a un système nerveux qui est beaucoup plus calme en nature, qu'on soit avec un TSA ou sans TSA. Chez les enfants qui ont un trouble de l'intégration sensorielle, donc dans le cadre du TSA ou du TDAH, c'est majoré parce que le système de gestion et de régulation des sens est très différent des personnes neurotypiques, comme on dit, et que ça induit un stress massif chez eux, qui les empêchent de fonctionner, voire créent des crises énormes par moment, tellement leur cerveau est en surcharge complète.
Alors, en quoi c'est différent ?
C'est différent parce que, alors, petit topo sur le système sensoriel. Le système sensoriel, on le sait tous, on a 7 sens. Tu savais ça, Davy ? Tu as 7 sens, on est d'accord.
7, t'es sûr ?
Vas-y, Davy, fais-les-moi.
Ah, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher... Ah, oh, purée. L'odorat, et... alors les deux autres.
Et bien, figure-toi que c'est les deux plus importants qui te manquent.
Oui.
Et c'est ceux qui permettent de réguler le cerveau. En vrai, chez un nourrisson, les deux premiers, le premier système à apparaître, c'est le tactile. Mais le tactile, nous, on pense au fait de toucher la peau. Il y a le proprioceptif aussi, dont on parle peu.
Alors, quand on dit le toucher, c'est pas les deux là, c'est
en fait,
autre chose.
En fait, le toucher, c'est deux sens. Quand on dit « nous toucher » dans le langage commun, c'est deux sens.
Il y avait un piège.
Et c'est particulièrement important chez ces enfants-là, avec des troubles d'intégration sensorielle, de savoir qu'il y a deux sens, parce que souvent l'un des deux, au moins, n'est pas perçu de manière normale, on va dire, pour faire
que tout le monde comprenne. Oui,
voilà. Mais l'un aide l'autre.
Donc il y a le tactile. Et le proprio?
Le proprioceptif. Alors, le tactile, c'est... je vais prendre un exemple tout bête. Quand on te frôle le bras et que juste tes petits poils, là, même sans toucher ta peau, normalement, tu le sens, si on touche que tes poils. Donc, c'est les nerfs qui sont vraiment à fleur de peau.
Ce qu'on pourrait appeler une réaction épidermique.
Exactement. Et le système proprioceptif, c'est les nerfs, au contraire, qui te font... normalement, si tu lèves tes bras au-dessus de ta tête et que tu essayes de toucher tes deux doigts, tu vas à peu près y arriver parce que... ton cerveau sait où sont tes mains dans l'espace, même quand tu ne les vois pas.
D'accord.
Donc, c'est le système qui permet de sentir ton corps dans l'espace, le proprioceptif. C'est le système sensoriel profond, les articulations, les muscles. Voilà. Et souvent, chez les enfants avec de l'autisme ou un TDAH, le système tactile superficiel ne filtre pas. C'est vraiment une histoire de filtre. Ne filtre pas les informations correctement, de tous les sens, de la vue, de l'ouïe, et du tactile, et c'est particulièrement vrai dans le tactile, chez beaucoup d'enfants avec un profil de trouble du neurodéveloppement. Et c'est important de savoir qu'il y a deux systèmes tactiles, je t'expliquerai après, quand on développera. Et celui que tu as oublié, c'est le système vestibulaire qu'on oublie tout le temps, mais qui pour le coup fait que tu tiens debout et que tu peux marcher.
Mais je ne connaissais pas. Ouais.
Le système vestibulaire, c'est le système de ton oreille interne qui te permet de gérer ton équilibre dans l'espace. Voilà. Et ça aussi, c'est un système qui peut être très impacté dans le trouble du neurodéveloppement. Alors, en résumé très rapide, nous, personnes neurotypiques, enfin pas moi du coup, mais les autres, nos sens envoient l'information et à la base du cerveau, il y a un système de filtre qui te permet à l'heure actuelle de me parler en faisant abstraction des petits bruits autour de toi, de la voiture qui passe dehors, de ton t-shirt qui touche ta peau. Normalement, tu ne les sens pas trop quand tu me parles là, parce que ton cerveau choisit l'information prioritaire qui est normalement ma voix à l'heure actuelle, chez un enfant avec un trouble de l'intégration sensorielle. Ce filtre-là est complètement, ne fait pas son job, donc il peut très bien soit trop filtrer, ce qui fait que très peu d'informations passent, et là le cerveau est en stress parce qu'il manque d'informations pour se repérer, soit tout laisser passer, et ça donne des enfants qui sont en surcharge sensorielle et qui du coup... les soirs en boîte de nuit avec le bruit constant et quelqu'un qui te tapoterait sur l'épaule pendant 10 minutes en disant « Hé, Davy !» Tu finirais par craquer. C'est pareil pour eux, mais c'est tout le temps comme ça. Et les enfants qu'on dit dérégulés, où ça passe de l'un à l'autre, toute la journée, tout le temps, à n'importe quel moment, avec un cerveau en manque d'informations, puis en surcharge d'informations. Là où chez nous, normalement, le manque d'informations, c'est que le matin avant le café ou le soir avant de se coucher, mais pas n'importe quand au milieu de la journée. Voilà, du coup ça crée un stress massif, et qui dit stress massif chez l'être humain, n'importe quel être humain, donne des situations de survie de type attaque, fuite, paralysie, ce qui explique ce qu'on peut voir parfois dans les magasins de ces enfants, et qui se jettent par terre en hurlant parce que leur cerveau leur a dit là coco, tu vas mourir, il y a beaucoup trop de sensations. C'est l'équivalent d'un lion devant eux. Le cerveau réagit en mode faut que je sauve ma peau, vraiment. Et voilà.
Est-ce qu'il y a des signes précurseurs de surcharge sensorielle comme ça? Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont reconnaissables, détectables?
Alors j'ai envie de dire la première chose très facile, c'est de demander à leurs parents. Je t'assure que la majorité des parents savent quand leur enfant commence à déréguler. c'est différent d'une personne. Oui, voilà, parce qu'on le connaît très bien. C'est assez différent d'une personne à une autre, mais il y a des signes. Qui sont assez généraux, auxquels on ne pense pas forcément. Alors le truc classique, c'est un enfant qui commence à moins bien réfléchir et à se désorganiser physiquement dans l'espace, donc à s'agiter un peu dans tous les sens. Ça peut aussi être juste le fait d'avoir les oreilles très rouges. Tu regarderas si tu as des enfants, David.
Ouais.
Et ben, si tu les vois faire du trampoline ou de la balançoire vraiment trop longtemps, si tu observes bien, peut-être que ça arrivera que tu les vois sortir avec les oreilles rouges fluo.
Ouais.
Ça, c'est un signe de dérégulation sensorielle, pour le coup aussi, qui est un peu plus discret, mais qui est intéressant à savoir chez des enfants qui n'expriment pas, parce qu'ils ne font pas tous des crises. Il y en a qui n'expriment pas leur souffrance sensorielle, et où ça permet d'avoir un décodage.
C'est pas que le froid, alors?
Pas que le froid.
Ah bah oui, le froid, quand on fait de la balançoire, des fois, il fait un peu frais, on a les oreilles rouges.
Tu verras qu'en été, ça marche aussi.
Ok, en été, ça marche. Non, mais il faut voir. Ok, d'accord. Non, je ne savais pas.
C'est pas que ni le froid, ni la chaleur.
Okay.
Ça peut être un symptôme de dérégulation sensorielle aussi, ouais.
Alors, s'il y a des moyens de régulariser cette dérégularisation?
Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est encore des choses qui sont en état de recherche dans le monde entier, de comment on accompagne ça. Ce sur quoi on est tous globalement d'accord dans le monde sur la régulation sensorielle, c'est de un, que ça s'entraîne, par ce qui s'appelle de la désensibilisation. Et aussi que ça se module. Et du coup, nous, personnes équipées d'un cerveau fonctionnel, on fait ce qu'on appelle de l'autorégulation. C'est-à-dire que quand on commence à surcharger, on a la bonne idée d'aller prendre un verre d'eau, comme je vais le faire dans deux minutes, ou d'aller prendre son espace, ou d'aller faire un peu de boxe parce qu'on est vraiment très contrarié contre notre collègue de travail, ou de se poser la question, est-ce que j'ai bien compris la situation? Est-ce que ça vaut le coup de me mettre dans cet état-là? Ce qui n'est pas accessible à beaucoup d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement, et ce qui est encore moins accessible aux jeunes enfants. Ce qui fait qu'on attend d'eux souvent qui gère cette surcharge sensorielle avec un comportement adapté, c'est totalement impossible dans beaucoup de cas, parce que c'est le cerveau reptilien, tu sais, la partie de ton cerveau primitif qui réagit, c'est pas la partie dans le cerveau humain, je te vois faire une drôle de tête, on a une toute première partie qui est l'origine de l'humanité, où on était tous des reptiles, et dont le boulot c'est juste de nous maintenir en vie, son job c'est juste, ok je vois un lion, je cours, ok je vois de l'eau, je vais boire. Voilà, c'est la base de la survie. Et ensuite, ça s'est développé jusqu'au néocortex qui lui régule un peu tout ça. Il dit, ouais, non, c'est une affiche de lion, c'est bon, David, te mets pas à courir. Mais ça, ça demande réflexion. Et quand le cerveau est soumis à un stress intense ou qu'on a un enfant qui n'a pas développé son cortex préfrontal, il n'y a pas possibilité de se dire, bah, c'est juste une affiche, on se calme, en fait. Du coup, pas de possibilité de se réguler de manière consciente. Et du coup, en général, à ces moments-là de la vie, les manières de se réguler ne sont pas adaptées socialement, on va dire. Et chez les enfants avec un trouble du neurodéveloppement, ça peut perdurer, surtout si personne ne vient leur enseigner une manière de se réguler de manière adaptée. Et oh, grande nouvelle, être dehors permet de s'autoréguler.
Plus facilement.
Beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens à disposition et un environnement qui est beaucoup plus propice à l'autorégulation aussi.
Parce qu'il est plus constant dans sa charge d'informations au niveau du bruit, c'est un peu toujours les mêmes. Donc il y a des repères qui se font un petit peu.
C'est aussi beaucoup moins chargé en termes de stimuli, si on parle de stimuli auditifs. Je pense que personne ne comparera le bruit des petits oiseaux en fond sonore dans la forêt à être sur le bord de l'autoroute. On est assez d'accord.
On est d'accord.
De la même manière, visuellement, je pense qu'on supporte tous mieux un coucher de soleil. D'ailleurs, ça va vous calmer naturellement que je dise ça, c'est la preuve, que la lumière du supermarché qui commence à être en panne et qui clignote au-dessus de votre tête. Avec autisme ou sans autisme, ça va vous agacer.
Alors, comment on fait pour différencier une hypersensibilité et, je crois même, une hyposensibilité sur le terrain?
Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est un vocabulaire qui a pas mal cherché. On évolue, parle aussi
bien
de...
J'ai travaillé.
Ouais, je vois ça. Je vais t'embaucher à la Forest School, à Fort David. On parle aussi de profils d'enfants qui recherchent qui recherchent des stimulations et d'enfants qui évitent. C'est assez complémentaire. C'est une question complexe. Je vais avoir du mal à te la faire en version courte, celle-là, parce que...
On a 8 minutes.
Parce que ce qu'on voit peut vouloir dire différentes choses. Par exemple, on a tendance à croire que les enfants TDAH, s'ils gigotent tout le temps, c'est parce qu'ils sont trop excités. On est d'accord que c'est ce qu'on se dit dans nos têtes souvent.
Ça me paraît évident, ouais.
Ils sont hyper speed, ces enfants. La réalité qu'on commence à pointer en termes de recherche, c'est que c'est l'exact opposé. Les enfants avec un TDAH ont souvent, majoritairement, un cerveau qui filtre trop l'information. Du coup, leur cerveau est en manque d'information et le manque d'information crée un stress. La seule manière de gérer ce manque d'information, c'est d'aller en chercher. Du coup, ces enfants-là, s'ils bougent beaucoup, c'est pas parce qu'ils sont énervés, c'est parce qu'ils sont en manque. Et du coup, ils vont chercher la stimulation de leur cerveau qu'ils n'ont pas naturellement. C'est pour ça que le traitement qui aide les enfants avec un TDAH, la molécule aujourd'hui, c'est le méthylphénidate, et que le méthylphénidate, c'est un psychostimulant qui stimule le cerveau. Donc en gros, pour permettre à un enfant TDAH de se concentrer, on speed son cerveau.
Il peut devenir hypersensible.
Alors,
on peut passer de l'état d'hyposensibilité à hypersensibilité.
Complètement. Alors ça, c'est des... On ne peut pas devenir comme ça, pouf.
Ouais.
On est avec un cerveau qui évolue avec le milieu dans lequel on est. Mais le filtre sensoriel va évoluer avec tout ce qu'on va lui amener. Mais globalement, un enfant qui a un profil hyposensible va avoir tendance quand même à revenir vers ça dans les moments de stress. selon sa construction de base. Et inversement, quelqu'un qui a une hypersensibilité va rester un peu là-dessus. Mais il y a des profils d'enfants, et c'est les cas les plus compliqués, ce qui fait que je ne peux pas trop te répondre, qui ont ce qu'on appelle un trouble de la modulation, et qui, eux, vont passer de l'hypersensibilité à l'hyposensibilité sur la même partie du corps ou sur le même sens à un moment T de la journée. Et du coup, dire « Ah, cet enfant-là, il est en train de tout casser parce qu'il est hypersensible », c'est un peu trop réducteur. Malgré tout, je peux quand même faire des grandes lignes, mais j'invite les auditeurs à ne pas se baser là-dessus. Un enfant qui va éviter le toucher, qui va s'énerver dès qu'il y a beaucoup de stimulation autour de lui. C'est un enfant qui a plutôt un profil hypersensible et qui aura besoin d'un environnement plutôt épuré et pas de contact tactile inopiné. Et à l'inverse, un enfant qui va aller chercher la boîte de nuit en permanence, c'est un enfant qui va plutôt avoir besoin de chercher de l'information et plutôt un profil hyposensible. Mais là, c'est vraiment des gros résumés, puisque je viens de me prouver dans le cadre du TDAH, on est sur l'idée inverse.
Alors, à Brin d'Éveil, vous faites des petites sorties en nature. Et comment on fait pour évaluer les personnes, les enfants qui viennent aux ateliers de Brin d'Éveil? Alors, ça peut être facile, du coup.
Alors, j'ai envie de dire, pour moi, ça va. On est quand même bien outillés sur la Forest School et on a surtout un des piliers de la pédagogie par la nature, on en avait parlé je crois déjà, c'est la régularité.
Avec Anne Raffray qu'on salue, qu'on embrasse. Coucou, bien Anne. Fort, on en avait parlé mais vraiment
un des piliers de la pédagogie par la nature, donc la pédagogie des Forest School, c'est la régularité, donc on n'a pas d'enfants qui viennent une fois dans l'année. Où là, je pourrais faire une évaluation sensorielle, mais elle sera tellement biaisée par le fait que je le vois qu'une fois que ça n'a pas trop de sens. Donc, on a des enfants qui viennent toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les vacances scolaires. Et du coup, on a le temps de les observer, de les évaluer et de faire des profils un peu justes. La réalité, c'est que de un, on travaille avec des partenaires, donc des spécialistes. Moi, je ne suis pas ergothérapeute, je ne suis pas psychomotricienne. Et du coup, parfois et souvent même, je demande l'avis de la personne qui accompagne l'enfant. Et ensuite, j'ai eu cette chance incroyable d'être en formation et d'être supervisée quand même pendant 4 ans par une ergothérapeute sur l'identification des troubles sensoriels et l'accompagnement aux thérapies d'intégration sensorielle. Ce qui fait que je pense pouvoir dire, sans me vanter, que j'ai une assez bonne compréhension du fonctionnement des troubles sensoriels et de comment ça se manifeste particulièrement chez les enfants TSA et TDAH. Que je côtoie intimement et professionnellement depuis maintenant 15 ans.
15 ans, bah dis donc. On a quand même une espèce de méthodologie qui marche à tous les coups pour pouvoir intégrer des enfants dans des ateliers comme ça, dans la nature.
Tu parles sur les troubles sensoriels ou de manière générale ?
De manière générale.
Moi, j'ai ma méthodologie, que je pense que j'essaye d'enseigner en tant que formatrice en pédagogie par la nature, qui est déjà de prendre un certain nombre d'informations avant qu'ils viennent. Notamment sur leur profil et sur leurs besoins. Moi, je n'accueille pas d'enfant sur Brin d'Éveil avant d'avoir parlé avec les parents avant de ce qui pouvait être dur pour lui et de surtout quelles pouvaient être ses motivations dans la vie. Parce que clairement, mon levier principal sur Brin d'Éveil aujourd'hui et demain et hier, c'est que les enfants sont tellement motivés à être là, qu'ils s'éclatent tellement à jouer dans la nature, que même avec des troubles sensoriels massifs, je pense à un enfant qui a un trouble tactile énorme et pour qui la première année, dès qu'il était arrosé d'une goutte d'eau, se jetait au sol de douleur tellement c'était insupportable sensoriellement. Oui, il y a des enfants, là on parle d'enfants scolarisés sans difficulté intellectuelle, on est d'accord. Cet enfant-là, au bout d'un an et demi de prise en charge, il a été capable d'aller volontairement dans la vase pour être avec les copains parce que c'était tellement cool de partir à l'aventure. Et il a appris à déployer des moyens de « Ok, c'est dur sensoriellement, mais je sais comment me calmer moi-même avec ça. » Et du coup, c'est toute la volonté des ateliers thérapeutiques et éducatifs que, alors qu'ils sont en train de s'éclater comme des petits foufous dans la nature, moi, pendant ce temps-là, je les amène à dépasser des choses qu'ils n'auraient pas dépassées dans une salle de classe parce que ces expériences sensorielles-là qui permettent de calmer et d'apprendre au système nerveux que ce n'est pas un danger de mort d'être mouillé, par exemple.
Jouer avec le feu.
Ouais.
Bah alors, jouer avec le feu, évidemment. Vous dites comme ça.
Voilà, je n'aurais
pas. On va faire des pyromanes, non. Non, mais c'est un atelier qui existe, et ça, oui. J'ai pu le voir dans plusieurs forest schools, puis dans même beaucoup d'ateliers comme ça. C'est qu'on apprend que le feu, c'est dangereux, qu'il ne faut pas jouer avec, ça brûle, ça peut faire mal, etc. On peut faire des bêtises. Mais non, en fait, on leur apprend en fait, à passer ça, quoi. Ce petit genre de choses.
Ouais, bah, et puis c'est le feu pour le coup. Tu touches à un sujet complexe qui vaut encore une fois un atelier à lui seul.
Eh oui.
T'as fait exprès.
Oui.
Pour moi, c'est quelque chose, c'est un levier incroyable thérapeutique. Et ça vaudra coup que je justifie parce qu'il y a des équipes qui me disent mais n'importe quoi, lui apprendre à jouer avec le feu. Pour le coup, on va parler d'autodétermination et de confiance en soi, là, qui sont des choses majeures sur le développement de l'être humain.
Bien sûr.
Voilà. Et le feu, c'est excessivement thérapeutique. C'est-à-dire qu'un enfant qui a la conviction qu'il ne sait rien faire dans la vie et qui est super vénère, tu le mets dans la responsabilité de gérer l'élément naturel qui, pour l'humain, semble le plus dangereux et le plus puissant. Tu as un levier d'évolution psychologique juste incroyable.
Ça doit être un truc incroyable, ça, quand on est parent, et quand on est parent d'un enfant avec un TSA, un TDAH, on a peut-être même, en tant que parent, une vision biaisée. On dit, bah voilà, il est en crise, il est violent, alors que pas du tout, il est juste en train d'exprimer quelque chose. Et on l'imagine quand même un petit peu mal, hein. Dire non, mais t'inquiète pas, il va jouer avec du feu, il n'y a pas de problème. J'imagine que dans la tête des parents, en ce moment-là, ça doit...
Tu aurais dû inviter des parents de Brin d'Éveil qui t'auraient dit, bah ouais, mais 100% confiance.
Ah, je connais, ah oui.
Qui me les confie les yeux fermés.
Ce serait bien que vous veniez avec, avec des parents.
Je peux t'en trouver, hein, pas de soucis.
Ça, j'aimerais bien. Bon, c'est bientôt fini, on a encore une petite minute ou deux. Est-ce qu'il y a un petit peu d'actu à Brin d'Éveil? Est-ce que vous organisez des petites choses prochainement?
Alors, cette année, l'équipe a grandi, beaucoup, beaucoup grandi.
Ah ouais ?
Du coup, on a deux groupes d'habité sociale et moi, je me retrouve petite créatrice à superviser deux équipes différentes. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants en groupe d'habité sociale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et malgré mon envie de ne pas faire de pub pour ne pas dire non à des familles, ça va couper, c'est ça ? Oui. maintenant, on a plus de monde et aussi, on va lancer des ateliers parents-enfants sur les vacances scolaires pour les moins de 5 ans. Et moi, mon petit défi cette année, c'est d'ouvrir des ateliers pour les adultes, parce qu'en fait, les adultes aussi, ils ont le droit à cet espace.
Merci beaucoup, Tiffaine.
De rien, avec grand plaisir, David.